Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Je crois que les Tropéziens étaient très heureux avant l'arrivée des estivants, disait une Tropézienne. Une Tropézienne qui, à coup sûr, profitait de la manne. Certes, Saint-Tropez, c'était toujours mieux avant. Avant les sandales et les tartes tropéziennes qu'on tendait ses pieds nus et que les ampoules, aux pieds en question, vous dénonçaient à vos parents le lendemain de la fête. Saint-Tropez avant. Avant qui? Avant quoi? Saint-Tropez a toujours explosé. Mais tout a changé à partir du moment où l'argent est arrivé. Alors, frénésie des terrasses, et puis des touristes persuadés de voir le Saint-Tropez d'avant. D'avant. D'avant quoi? D'avant Saint-Tropez devenu l'annexe de Saint-Germain-des-Prés? La fabrique de l'histoire, Saint-Tropez, du mythe à la marque, première diffusion sur France Culture, le 2 septembre 2002.
Il est 15h en ce 2 septembre 2002, vous entrez dans la fabrique de l'histoire. Bienvenue dans une fabrique de l'histoire transformée qui, comme les grands hôtels de bord de mer, à la morte saison n'ouvrira pas chaque semaine la totalité de ses salles. Certaines d'entre elles resteront fermées pendant quelques temps. Car la fabrique est donc un peu plus courte désormais, sans son salon noir, en particulier la salle consacrée à l'archéologie que vous retrouverez maintenant tous les jeudis à 10h avec Vincent Charpentier, notez-le bien, donc tous les jeudis à 10h, le salon noir consacré à l'archéologie. Mais une fabrique dont les préoccupations et les thématiques demeurent bien entendu les mêmes, mémoire, historiographie, histoire des représentations seront toujours au cœur des salles que nous parcourrons simplement à un rythme différent des années précédentes. Ainsi, documentaire et débat n'iront plus forcément de pair et il est possible, comme cette semaine d'ailleurs, que le documentaire occupe la totalité de l'émission, c'est-à-dire 1h30 désormais. Une autre fois, ce sera le laboratoire qui seul, de toutes les salles de la fabrique, ouvrira ses portes pour un débat historiographique, comme la semaine prochaine, lorsque nous traiterons de l'apport de Michel de Certeau à la discipline historique. Enfin, à d'autres occasions, et comme lors des saisons précédentes, cascade de mémoire, salles documentaires, ou bien encore les salles consacrées au discours, légèrement raccourcies, précéderont un débat de 3 quarts d'heure environ. Aujourd'hui donc, une émission de rentrée entièrement centrée autour d'une mythologie contemporaine, celle de Saint-Tropez, ou comment un petit village de 3000 habitants au siècle dernier est peu à peu devenu désormais une marque déclinée à l'envi par les publicitaires et les marchands de vêtements. 1h30 d'un documentaire que vous pourrez d'ailleurs réécouter toute la semaine sur Internet, sur le site de la fabrique, désormais accessible sur franceculture.com et commenté en nous écrivant à fabrique@radiofrance.com, fabrique@radiofrance.com ou bien encore à la pièce 6144 de la maison de Radio France. Départ donc pour la Côte d'Azur avec la voix la plus célèbre de Saint-Tropez, enregistrée dans les années 70 pour un film de Guilain Dussart, Saint-Tropez vole.
Il était une fois un village dormant, allongé sur le sable, au bout d'une presqu'île, entre le bleu d'une mer paresseuse et d'un grand soleil chaud. Le temps avait oublié ce village vivant au fil de l'eau, de l'amour et des joies.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé.
Ainsi que les oiseaux, les gens parfois immigrent. Ils s'en sont tous allés pour se faire une fête vers les jadis lointains où règne le Saint-Tropez.
C'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons.
Saint-Tropez, du mythe à la marque.
Les sensations par rapport à mon adolescence, soleil de plomb sur un port vide. 3-4 promeneurs, en sandales tropéziennes bien entendu, quelques bateaux, quelques beaux voiliers, et puis rien, des filets de pêche. Moi j'ai connu ça, hein.
Mais est-ce que je peux aller chercher? J'ai le livre de Colette, Prison et Paradis.
Oui,
parce qu'on peut lire, c'est très intéressant.
À voile dans l'azur, à voile dans la pure.
Guy Johann de la Provence, 1888. Saint-Tropez est souvent visité par les voyageurs depuis qu'un service quotidien de bateaux à vapeur le relie à Saint-Raphaël. Il a peu de rivaux dans la belle Provence pour le charme et la variété des paysages. La ville elle-même ne peut aspirer à devenir une autre Cannes, parce qu'elle n'est pas garantie des vents du nord. Mais les environs abondent en sites parfaitement abrités, où des villas pourraient être bâties pour les personnes d'une santé délicate.
Je ne vais pas tout vous lire, mais juste les passages qui sont étonnants. Alors, c'est Prison et Paradis, 1932. Saint-Tropez pyjama, dos nu, boîte à débardeurs truquée pour touristes riches. 200 autos de marque à partir de 5 heures en travers du port. Cocktail, champagne sur les yachts à quai et la nuit sur le sable des petites criques, vous savez. Non, je ne sais vraiment pas, je connais l'autre Saint-Tropez. Il existe encore, il existera toujours pour ceux qui se lèvent avec l'aube.
Guy Johann de la Provence, 1903. Trop battu du Mistral, Saint-Tropez ne deviendra jamais une station hivernale fréquentée. Bien qu'aux alentours, la campagne offre des retraites très abritées où la végétation, palmiers, superbes lauriers roses est magnifique. Mais les désavantages de la position du port face au nord sont compensés par l'énorme avantage d'avoir le soleil dans le dos, de pouvoir regarder la mer sans que la vue soit troublée par le reflet du soleil dans l'eau. De plus, Saint-Tropez est le meilleur centre d'excursion des morts et nulle part dans la région les touristes ne trouvent réunis au même degré tous les éléments du confort.
Moi, j'ai connu le Saint-Tropez ancien, où il y avait des pêcheurs qui avaient à peine de quoi s'habiller, se vêtir, qui parlaient pas, qui savaient pas, qui savaient à peine lire et écrire. Ma mère, qui était la fille d'André Messager, compositeur célèbre, la femme du photographe, etc., l'a découvert en se trompant de route, 1925, Saint-Tropez, et elle a tombé amoureuse de ce village hors du monde, bout du monde, à cause de son charme et de la gentillesse de sa population. C'est une presqu'île, mais en fait, c'est vraiment une île. C'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin, les routes se perdent, et donc c'est un pays qui était isolé.
Alors après, il y a beau yacht blanc, fin yacht noir rehaussé d'or, yacht d'acajou couleur de peau rouge. En face des maisons anciennes à base épatée, ils cuvent leurs soirées orageuses. Quittez par exemple, au sortir de Saint-Tropez, la grande route du tourisme, la route des 1000 auto-moutonnières, qui vont et viennent de Sainte-Maxime à Saint-Tropez, de Saint-Tropez à Sainte-Maxime, Saint-Aigul, Saint-Raphaël. C'est aujourd'hui, hein, hein. Donc, ça prouve bien que Saint-Tropez vit
ses cycles
très fortement, avec des gens d'exception en permanence. Et que celui qui croit aujourd'hui qu'il a fait Saint-Tropez ou qu'il va le défaire, il est à côté de la plaque.
Août 2002, comme chaque année, la presse magazine en panne d'actualité choisit de faire sa couverture sur Saint-Tropez. Pourquoi Saint-Tropez fait toujours rêver, titre ainsi Le Point, tandis que VSD diagnostique à l'inverse que la cité corsaire ne fait plus rêver personne. Ces deux discours antagonistes courent tout au long d'un siècle qui a vu le petit village des morts devenir une marque estampillée. Comme tous les lieux habités de fantômes et de fantasmes, Saint-Tropez est le miroir de certains de nos rêves et parfois de nos cauchemars. Des rêves sur toile de maître avec Signac, puis sur pellicule qui firent depuis les années 30 de la Presqu'île un studio de cinéma en plein air grâce auquel le monde entier s'imagina le village en représentation. Tino Rossi en 1941, Bébé en 1956, De Funès dans les années 60 et bien d'autres depuis ont participé à la construction du mythe. Vulgaire, dégradé, dédié à l'argent facile, ayant vendu son âme, les rêveurs d'une société où princes et pêcheurs pourraient, dans un instant magique, abolir les barrières sociales autour d'une pétanque place des Lys, ces amateurs d'authenticité forcément construite, ont crié, tous les 20 ans depuis la Seconde Guerre mondiale, à la décadence de Saint-Tropez. Dans le même temps, de nouvelles populations, toujours plus nombreuses, arrivaient par vagues, porteuses d'une brique
qui permettait de renouveler le monument au mythe tropézien. Car le port, découvert sur l'eau par Maupassant, peint par Dunoyer de Segonzac, investi par la Belle Société des années 20 et 30, réinventé après-guerre par Saint-Germain-des-Prés, transformé par le mythe Bardot, conquis aujourd'hui par les plus grandes fortunes mondiales, ce port s'est à chaque fois transfiguré, tout en maintenant, aux yeux du monde entier, l'illusion d'être toujours le même. Georgette Lorta Jacob.
Je suis arrivée en 1928. Mon père, M. Sarrakine, ayant épousé Mademoiselle Sénéquier et ayant pris la gérance de Sénéquier en plus. J'ai connu, parce que à l'époque, paraît-il, j'étais plutôt bien, j'ai connu tous les peintres et posé surtout pour qu'à moins de 3 ou 4 grands portraits. J'ai très bien connu Dumayet de Segonzac, qui était très ami avec ma mère.
Alors, justement, madame Lorta Jacob, quand vous arrivez ici, vous êtes donc dans un village qui est encore un village d'une certaine façon. Quelle est l'ambiance de Saint-Tropez ? Vous parlez de Sénéquier, puisque votre père a repris la gérance de Sénéquier en se mariant avec la fille de Sénéquier. Par exemple, Sénéquier, c'est une institution aujourd'hui, mais c'était quoi le port à ce moment-là ? Décrivez-nous un peu ce Saint-Tropez que vous voyez quand vous êtes jeune fille.
Quand je suis arrivée à Saint-Tropez, Sénéquier, il y avait toujours le nougat que l'on faisait à la main, alors que maintenant c'est avec des machines, à la main très artisanale. Il y avait strictement, à l'arrière de la boutique, il y avait strictement 3-4 tables de pour le thé, on servait le thé. Là, il n'y avait pas de terrasse du tout. C'est mon père qui a vu l'avenir de Saint-Tropez et qui a dit, mais il faut faire une terrasse, et qui a eu l'idée, qui a fait la terrasse de Sénéquier, bien connue avec ses sièges rouges aujourd'hui. Moi, j'ai connu Saint-Tropez, alors vraiment merveilleux, parce que Colette, la grande Colette, aimait beaucoup certains gâteaux de Sénéquier. Et comme j'avais une bicyclette, je suis allée souvent livrer à la Trémuscate chez Colette, qui me donnait un goûter pantagruélique, une énorme miche de pain, une tranche avec du pain, du miel et du beurre.
Oh, monsieur Salvatore, voilà, 7 kilos 3. 7 kilos 3, c'est de la belle anguille, qui remue.
Ça remue pas et ça grouille.
Ça grouille parce que c'est vivant, mais délicat. Viens, Francis.
Les images que vous avez gardées de ce port, c'est quoi ? C'est encore un port de pêche quand vous y êtes dans ces années 20, 30 ?
Non, il y avait beaucoup de bateaux de plaisance qui venaient quand même. Il y avait des bateaux de plaisance. Et il y avait à ce moment-là les tartanes qui livraient du vin, de l'huile qui arrivait d'Italie. Et les marins de Saint-Tropez n'étaient pas souvent d'accord avec les marins italiens de Gênes qui arrivaient avec les tartanes. Il y a eu souvent des bagarres que j'arbitrais du haut de mon troisième étage sur le port. C'était des marins italiens, ils venaient tous de Gênes et les tartanes étaient superbes.
Ah, justement, hein. Et passe-moi le casier là. Ah, bon, merci. Hein.
Oh, mon Dieu, les mains fraîches!
Ah, pas si fâché que toi! Okay, je vais rendre ce casier chez Arthur, surveille le poisson et je reviens de suite. Adieu, cocotte!
Guide bleu de la Provence, 1922. Le port est fréquenté par des trois mâts qui apportent du liège de Corse et de Tunisie, par des vapeurs qui viennent charger pour le Danemark et la Suède les rognures de liège, linoléum. Deux chantiers de construction, jadis très florissants, ne livrent plus guère que des embarcations de pêche et de plaisance et de petits caboteurs. Les promenades sont agréables en bateau sur le golfe, du vent toujours, rarement de la mer, ne sortir que par beau fixe. François Coppola.
Dans les années 30-35, 35, 37, 38, moi j'étais tout gosse, j'apprenais à nager dans le port là, parce que les eaux étaient propres. On me voyait arriver à la belle saison, en juillet-août, hein, parce que l'hiver il n'y avait pas de bateau. Les bateaux, les yachts, les gros yachts arrivaient et s'installaient devant Sénéquier, qui existait déjà. Hein. C'est connu mondialement, Sénéquier, mais il y a 70 ans que c'est connu, Sénéquier. Et toutes les vedettes de l'époque...
Jean-Pierre Aumont.
Après, Jean-Pierre Aumont est venu au moment du débarquement, parce que Jean-Pierre Aumont a débarqué sur les plages de Saint-Tropez le jour du débarquement, le 15 août 1944. Mais il venait, par exemple, le bateau d'Édouard Daladier, qui était le chef du gouvernement français, président du Conseil, au moment des affaires de Munich, en 1938-39. Et puis, il y avait, bien sûr, les vedettes d'époque, Jean Murat, Annabella. Toute cette richesse, il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais qui venaient ici.
Donc la légende d'un Saint-Tropez qui serait devenu le lieu des Happy Few après-guerre, c'est une légende parce que tout compte fait, il y avait déjà une tradition qui s'était installée dès les années 30. Et on voit ici, je pense, le bâtiment de Latitude 43 qui était un grand hôtel à l'époque, qui est un bâtiment très moderne pour l'époque, pour les années 30, et qui était un hôtel de luxe où venaient toutes les vedettes de l'époque.
Voilà. Ça, c'était en 1937. Il a été fait en 36. Il a été inauguré en 38 au moment des accords de Munich. Vous voyez, et puis il y a eu la guerre.
Guide bleu Provence, 1922. Saint-Tropez, délicieux séjour d'été dans une charmante situation sur la rive sud du golfe de Saint-Tropez en face de Sainte-Maxime. Hôtel toute l'année, du littoral, boulevard Louis-Blanc, électricité, bain, garage, l'été, service dans le jardin. Sub et continental, quai Suffren, 40 chambres. Pension, villa des Platanes, route de Sainte-Anne, toute l'année, maison pour dames, chauffage, bain, jardin. Bateau, canot automobile pour Sainte-Maxime, bateau de promenade, prix à débattre. Spécialité, nougat sénéquier et fougassette, thon mariné.
Douze francs le matelot ? Eh bien, vous vous embêtez pas.
12 francs, ben rien.
Heureusement que je dîne à la maison.
Mais voyons, monsieur Etienne, c'est un prix pour le tourisme, pour les clients de passage.
Et pas sur les clients de passage.
Ah, vous, je vous en prie.
Oh, moi, la prière, vous savez. Donnez-moi plutôt un coup de rosée.
Je suis venu ici pour travailler dans un hôtel qui était à l'époque un très grand palace, qui était la Latitude 43. C'était en 1938.
François Guglietto.
Attendez voir. Tenez, regardez ici, ça vous donnera une idée, cette gravure-là. Regardez bien. Elle a été faite par Polyrib en 1930.
Alors c'est une gravure qui effectivement montre visiblement que Saint-Tropez d'aujourd'hui n'est pas très différent du Saint-Tropez d'hier, parce que c'est une gravure qui nous montre que les régions envahies, donc on voit donc les drapeaux britanniques, australiens, américains, chinois. Et donc on voit effectivement un port de Saint-Tropez dans les années 30 qui n'a rien à envier au port d'aujourd'hui.
C'est extraordinaire parce qu'à l'époque, il faut bien se dire qu'en 1930, l'été sur la Côte d'Azur, c'était une chose qui n'existait pas pratiquement. C'était uniquement l'hiver. Et regardez un peu la qualité des gens. Vendogen, Colette, en fait, tout ce que Paris comptait de célébrités était là, en plein mois d'août. Et nous étions trois amis qui arrivions de Nice. On travaillait dans les palaces à l'époque, nous étions des employés de palace. En arrivant, donc, on n'a pas pu être intégrés dans l'hôtel. Nous avons passé 3 heures ici. Et nous sommes repartis sur Saint-Tropez. Et pendant ces 3 heures, nous sommes venus naturellement prendre un verre. Il n'y avait qu'un seul endroit, c'était chez Sénéquier. La table qu'il y avait derrière nous, il y avait à l'époque, qui sont après par la suite, les deux sont devenus des amis, Jean-Pierre Aumont et Claude Dauphin, ainsi que Blanche Montel et Rosine Desréans, qui étaient à l'époque quatre grandes vedettes de cinéma. En arrivant, je me souviens d'une chose qui était incroyable, parce que tous les gens que je croisais qui passaient sur le port, personne n'avait de cravate. C'était bizarre, nous qui sortions avec encore le col dur et les cravates, en fait, il y avait une décontraction complète ici, puisqu'il n'y avait rien qui ne... C'est la raison pour laquelle ils étaient tous venus ici. C'était un pays... C'était le bout du monde ici. Vous alliez simplement à Sainte-Maxime, c'était complètement différent. Il y avait des hôtels, il y avait des choses. Tandis qu'ici, il n'y avait rien, parce que c'est de la presqu'île ici. C'est le bout.
C'est ce que disait Colette quand elle disait que c'était un cul-de-sac ici.
C'est un cul-de-sac, absolument. Il y avait le petit train. C'était vraiment formidable.
août 1946, Saint-Tropez commémore pour la deuxième fois sur la place des Lys ces journées qui virent les démons de l'aube prendre pied sur les plages du Golfe. Sous le soleil pesant, les couleurs prennent des tons plus vifs. Dans l'atmosphère du midi, parmi les joueurs de boules et les palmiers, dans les cris chantants, les cérémonies officielles prennent un air bon enfant. Tout Saint-Tropez s'est réuni sur la place où les cafés étalent leurs terrasses face au monument sur lequel se lit, gravé dans la pierre, l'inscription relatant le rassemblement libérateur. Les femmes ont des toilettes légères, les hommes sont le torse nu. Saint-Tropez revient à la vie, les estivants sont nombreux. Saint-Tropez revient à la vie et dans quelques mois peut-être, les destructions causées par les explosions des mines allemandes sur le port seront complètement réparées. Les fêtes battent leur plein. Le 17 août et le 21 août ont lieu ici au port des pêcheurs de grandes fêtes au bénéfice de la reconstruction de Saint-Tropez.
Le port que nous voyons ici n'est pas, et c'est ce que la plupart des touristes ne savent pas, n'est pas le port que vous avez connu lorsque vous étiez enfant, François Coppola, parce que simplement une bonne partie de ce port a d'abord été détruit par l'explosion, le minage du port, en particulier tout ce quartier quais, du côté de Sénéquier.
L'acheté, mais ça n'avait que peu d'importance, mais la vie même du pays, tous les égouts étaient cassés, il n'y avait plus de quai, on ne pouvait plus aborder.
Est-ce qu'il a été reconstruit plus ou moins à l'identique?
Absolument, pratiquement à l'identique. Heureusement, des architectes avaient voulu reconstruire la façade que vous avez sous devant les yeux, un peu comme la façade du port de Toulon. Mais les artistes ici et les personnalités ont réagi et ont demandé à ce que l'on reconstruise Saint-Tropez comme par le passé. Donc les architectes locaux se sont basés sur les photos, les cartes postales, et ont reconstruit Saint-Tropez à 9 sur 10 comme c'était avant.
À peu près, oui, voilà. Parce que ça avait tout explosé, y compris dans les caves.
C'est selon la solidité du terrain, parce que c'est pas les maisons qui ont été minées, c'est le quai. Et le quai, quand il a sauté, si c'était de la roche, les maisons sont restées, si c'était de la vase, elles se sont écroulées.
Nous avons été rasés complètement, Sénéquier. On est resté 3 ans pour reconstruire et recommencer à fonctionner. Nos maisons sur le port avaient des caves fortifiées extraordinaires, des escaliers à double révolution. Et maintenant, ce sont des HLM pratiquement. Mais tous les commerçants ont préféré passer par la reconstruction qui travaillait tout de suite que les beaux-arts qui auraient traîné. Ils avaient envie de recommencer parce que 3 ans sans rien faire. Oui, ils étaient contents de que la reconstruction s'en charge. Très mal d'ailleurs, il y a des petites cloisons, nous avions des murs de pierre. Ça n'a rien à voir avec les maisons que j'ai connues en 1928.
Alors, ironie de l'histoire, c'est que les touristes qui aujourd'hui se promènent sur le port sont persuadés que ce qu'ils voient, c'est le Saint-Tropez de toujours.
Il n'y a plus aucune pierre de l'époque.
Ça veut dire, Madame Lorta-Jacob, que c'est un décor, ce Saint-Tropez que l'on voit aujourd'hui?
Pour moi, absolument un décor. J'ai le souvenir de nos maisons, ça n'a rien à voir. Les superbes caves, c'était merveilleux.
1953, sortie en salle de Saint-Tropez, Devoir de vacances, commentaire Boris Vian, lu par Daniel Gélin, acteur Michel Piccoli et Léonore Hirt, réalisation Paul Paviot.
C'est midi à Saint-Tropez. Sur le port des yachts, on se promène et on regarde les bateaux. À la terrasse de la Branche, le petit port des pêcheurs, on se regroupe et on s'attable pour l'apéritif.
Simone Duckstein, nous sommes ici à l'hôtel de la Ponche, qui est un endroit mythique parce que c'est vrai qu'en face de nous, on a tout le golfe de Saint-Tropez avec en face, je pense, ça doit être Sainte-Maxime qui est en face.
Tout à fait.
Avec cette petite plage de la Ponche qui était en fait le quartier des pêcheurs. Vous-même, vous avez connu ce Saint-Tropez-là avant qu'il ne devienne un Saint-Tropez très fréquenté par les touristes, etc. Ce quartier de la Ponche, il était comment dans les années 50?
Alors c'était le quartier des pêcheurs, en fait, vous voyez ici devant la chaîne bleue des morts qui va jusqu'à l'Esterel, cette petite crique qui est en fait un petit port naturel où étaient tous les pêcheurs avant-guerre et jusqu'après-guerre. Ensuite il y a eu tellement de bateaux que les pauvres pointus n'ont plus rester là parce qu'ils étaient trop chahutés et il leur arrivait parfois de terminer sur le quai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce quartier qui était avant-guerre réservé aux pêcheurs est devenu par force à la mode après-guerre, étant donné que le port étant cassé et tous les gens qui étaient à Saint-Tropez ayant envie surtout d'oublier la guerre et la période de la guerre se sont réfugiés à la Ponche et qui étaient restés intacts. Et c'est comme ça que la Ponche est devenue si à la mode. Et du reste, quand ma mère et mon père ont racheté le bar des pêcheurs en 1938, Madame Aubourg, la célèbre propriétaire de ce qui était l'hôtel de Paris à l'époque, l'hôtel de Saint-Tropez avec un grand H, avait dit à ma mère, mais Margot, tu es complètement folle, qu'est-ce que tu vas acheter ce petit bar là, c'est ridicule, il faut être sur le port ou sur la place des Lys. Vous voyez. Pour elle, il ne pouvait pas y avoir d'avenir à la Ponche. Et en fait, l'histoire a prouvé le contraire.
Paul Paviot.
La guerre? Mais non, c'est pas la guerre. C'est midi, à Saint-Tropez. Sur les toits et les terrasses blanches de Saint-Tropez, le bruit de la sirène violent prolongé insistant. Sur le port des yachts, on se promène et on regarde les bateaux. À la terrasse de la Ponche, on se regroupe et on s'attable pour l'apéritif. La pittoresque fontaine où l'on vient se rincer après le bain et dont l'eau est toujours fraîche. La Ponche, avec cette curieuse vieille porte qui voit défiler tel un gardien inamovible tous les visiteurs de la petite cité méditerranéenne. Maurice, je le connaissais depuis la Libération, enfin... Nous étions des germano-pratins avertis. C'était l'époque où la jeunesse espérait qu'il n'y aurait plus de guerre, qu'on allait raser gratuit. Et donc, on ne faisait pas l'affaire. On était dans les boîtes de nuit devant un verre d'eau glacée, si on n'avait pas de cospillère whisky. Et les patrons des boîtes, à l'époque, les marchands n'étaient pas encore rentrés dans le temple, nous toléraient, puisqu'on faisait le spectacle, enfin, certains en tout cas. Et Gréco et tout ça étaient là. Et un jour, une comédienne avec qui j'étais à l'époque, et qui était amie de Boris, m'a dit, tu sais qu'il aimerait bien faire un truc avec toi. Quoi, Boris? Ben, je dis, oui. Et puis, j'ai dit, ben, Boris, j'ai appris que, ouais. Mais alors, je te signale, si on fait un truc ensemble, il faudra trouver la date, parce que moi, je prends tous les ans un mois de vacances à Saint-Tropez, où je loue une petite maison. Et alors, il faudra que ça se fasse dans ce créneau-là, autrement, bien sûr, je suis quand même très pris. J'ai dit, ben, écoute, on pourrait peut-être faire un truc, puisque je sortais de mes parodies plutôt un peu satiriques sur Saint-Tropez, le snobisme qui déjà à l'époque commençait à poindre et tous ces gens qui descendent de Paris qui descendaient à Saint-Tropez pour se montrer sur le port et puis voir les bateaux et faire croire qu'ils avaient des bateaux. Bon, Et je dis, on va appeler ça Saint-Tropez, virgule, devoir de vacances.
Voilà qui pourrait beaucoup mieux convenir à notre jeune premier. Vous nous dites qu'il s'appelle naturellement Gérard. Ah, ça, c'est une proie tentante. La comtesse de Hirtenberg elle-même. Et ne manquons pas pour autant de fixer cette rencontre historique entre Dunant José, à ma gauche, peintre local, 68 kilos, et Dominguez Oscar, peintre parisien, à ma droite, poids non précisé. Non loin de là, le hasard très habile à Saint-Tropez nous permet d'apercevoir côte à côte gréco-enfant et gréco-adulte, comme au musée. Oh, Juliette, c'est à toi cette barque. Un petit sourire, s'il te plaît. Voilà encore un moment crucial de l'histoire tropézienne, qui fera merveille sur la pellicule. Mais c'est là mon moineau. Bonjour, cher.
Il n'était pas du tout connu comme musicien, pas connu comme rien du tout. Il fréquentait la bande des salopards de Saint-Germain-des-Prés, dont Daniel Gélin était le maître et qui était mon beau-frère de l'époque.
Daniel Artigue.
Et c'est par hasard que Daniel Gélin est venu ici pour se reposer. Ma belle-sœur m'a écrit en disant « Daniel, il est très fatigué, il faut que tu le... Il va venir en vacances dans le midi, puisque tu as une petite maison à Saint-Tropez, je te l'envoie. » Alors il est venu, il a posé sa brosse à dents dans un verre, je ne l'ai plus jamais vu. Et puis il s'est amusé comme un fou, il a amené tous ses copains. Et à ce moment-là, ça a été l'enfer pour le quartier, parce qu'on ne pouvait plus dormir. Et ça a été Saint-Germain, voilà. Donc,
il y a eu des bagarres,
en fait, ça a été le commencement du pire.
Déjà ?
Moi, je crois que ça a été le commencement du pire. Et on était quand même dans un village tranquille. Là, ça commençait à faire la fête et à emmerder tout le monde.
C'était le 21e arrondissement de Paris, d'une certaine façon, ou du moins l'arrondissement bis de Saint-Germain-des-Prés.
Attendez, uniquement à la Ponche. Hein. Le Grand Port, on n'y allait pas. On ne connaissait pas le Grand Port.
Il était détruit à cette époque-là, de toute façon.
Oui, et puis tout Grand Port, c'était pas nous, c'est Néquier, c'était pour les snobs, les touristes et tout. C'était déjà un peu ça. Hein. Bon. Tandis que la Ponche, c'était un petit village. On était chez nous là.
François Coppola.
Cela sont arrivés dans les années 47, 48, 49, 50. Donc vous voyez, Brigitte est venue en 56, c'est déjà beaucoup plus tard, ça fait 10 ans après. Il y avait Daniel Delorme, par exemple, qui venait dans les années 50.
Pierre Brasseur, qui avait sa maison à Gassin, qui descendait.
Charles Vanel, qui habitait ici. Jean Murat, il avait une maison là. Les peintres, bien sûr.
Et ce mélange entre une population ouvrière qui était celle donc de cette usine de torpilles, une population de pêcheurs qui décroissait de petit à petit.
Il y avait des incidents la nuit bien sûr, les gens dormaient parce que le matin ils allaient au boulot, et puis il y avait ceux qui faisaient la fête. Alors à 2h, 3h du matin, ils sortaient des boîtes de nuit, ils chantaient, ils picolaient. À ce moment-là, ils recevaient des seaux d'eau ou des seaux des pissadous, comme on dit.
Des seaux d'aisance.
Il y avait des bagarres, il y a eu des bagarres. Moi, mon frère s'était bagarré contre une autre personnalité. Et cette personnalité a été hospitalisée avec fracture du rocher, mais c'était quelqu'un qui se droguait, qui a été reconnu drogué à la clinique. Mon frère n'a pas été embêté. C'était un bon garçon, mais il a frappé un peu trop fort. Bon, mais ça, dans une bagarre. Il y avait des bagarres, il y avait des heurts, et à côté de ça, il y avait les amitiés autour d'une bonne bouillabaisse.
Si vous voulez, on était tous copains des pêcheurs. Moi, j'étais copain avec Paul Radjo, qui, quand il y avait une largade d'Est et que ses filets étaient emmêlés, « Oh, moi, ça me fait chier de les démêler, fais-le à ma place. » Alors, je faisais à sa place. Il y avait une espèce de... On était tous mêlés les uns aux autres. Très naturellement, c'était absolument sublime, quoi, magnifique. Et très naturel, surtout, il y avait un naturel. À l'époque, j'habitais pas ici, j'habitais à La Ponche. J'avais une chambre qui donnait sur la pêcheur. Je voyais les pêcheurs partir le matin à 5h, ils me réveillaient, etc. Mais le soir, ils revenaient avec leurs filets et on partageait leur vie. Ça, c'était l'après-guerre et c'était la misère. Personne n'avait un rond. Si vous voulez, tout a changé à partir du moment où l'argent est arrivé. C'est-à-dire, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien du tout. Et puis après, sont arrivés les premiers bateaux, les voitures, et ça a commencé l'argent a tout bouleversé. Parce qu'on vivait avec rien. Moi, je suis pieds nus parce que j'ai toujours resté pieds nus. À l'époque, j'étais déjà. Bon. Et tous, on vivait, mais c'était pas pittoresque, c'était parce qu'on n'avait pas de chaussures, c'est tout. Le jazz a été découvert à ce moment-là. Et alors, les jeunes pêcheurs et tout, ils faisaient le bebop, je fais le bebop, boum, 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 je fais le bebop, boum, boum, boum. Ils savaient pas du tout ce que c'était et on rigolait comme des fous, on s'amusait, on faisait n'importe quoi.
Oui, parce qu'ici, c'était la liberté. Ce n'était pas du tout comme à Cannes, où il y avait déjà des palaces.
Simone Duckstein.
Une vie très mondaine. Ici, c'était vraiment la liberté. Les gens venaient ici. Vous avez cité la boîte de nuit du Tropicana qui a fait courir le tout Côte d'Azur de l'époque, grâce à Don Biaf, le célèbre saxophoniste noir américain. Et c'était vraiment... là où les gens pouvaient se défouler, s'encanailler, marcher pieds nus, ne pas s'habiller, tout ça n'avait pas d'importance. C'était d'abord la liberté.
Le monde est petit, l'Europe est petite, la France encore plus petite. Et Saint-Tropez, alors, vous savez, c'est tout petit, hein. Tout petit, tout petit.
Dès mes 18 ans, je trouvais fantastique, j'étais fascinée par cette liberté, au contraire. Parce que moi, on ne m'apprenait que ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et je voyais des tas de gens qui étaient très, très bien éduqués, mais qui ne pensaient et ne faisaient que ce qu'ils avaient envie de faire. Je trouvais ça fabuleux. Moi, j'étais complètement fascinée.
Tiens, mais c'est Brigitte Aubert.
C'était une élite qui aimait se retrouver, mais c'était en même temps... On avait l'impression de faire partie d'une même famille. Et c'était extraordinaire.
Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées.
Parce que ce qui a séduit justement tous ces notables, on peut dire les notables, et puis des un peu artistes, un peu pas conventionnels, si vous voulez, des la haute bourgeoisie, mais non conventionnelle. Et c'est ce qui a donné le ton de Saint-Tropez. Moi, je me souviens que le prince Alicant, qui était un copain, c'était pas un ami, c'était un copain. Vous voyez, c'était donc... il n'y avait pas du tout de discrimination sociale. Tout le monde se mélangeait à condition qu'on soit sympa les uns par rapport aux autres.
Et c'était dans quelles années, ça?
Ça, c'était à la Libération, ou même juste avant la guerre, déjà. Hein, avant la guerre, hein. Seulement, les gens étaient bien élevés, ils n'étaient pas comme maintenant. Ils avaient une culture qui n'existe plus. Ils venaient simplement pour se sentir libres et à l'aise dans un village merveilleux, le plus beau village du monde. Donc, ils savaient quand même faire... ils ne venaient pas pour faire n'importe quoi.
Moi, je suis revenu à Saint-Tropez en...
François Guglietti.
En 1953. Je suis revenu pour travailler, toujours, puisque j'étais dans l'hôtellerie. Je suis venu pour... parce que Saint-Tropez représentait pour moi un endroit qui était un village de l'autre monde. C'est-à-dire, il n'y avait rien, il n'y avait aucune commodité...
structure hôtelière.
Structure hôtelière, rien du tout. C'était formidable. Et c'était un endroit, c'était le paradis, quoi.
Et donc, on voit bien, effectivement, que dans ces années-là, il y a une bande sonore qui est le jazz. On va chez Palmyre aussi, m'a-t-on dit, oui, dans l'arrière-pays. Oui, c'était quoi, chez Palmyre ?
Chez Palmyre, c'était une espèce un dancing pour les lesters. Vous savez, les lesters, c'était les gens qui travaillaient, les dockers qui travaillaient sur les... Et c'était un peu... très populaire. Puis alors tout ce qu'il y avait à l'époque de gens très connus qui allaient un peu, si vous voulez, sans canailler, quoi. Voilà. C'était amusant de danser pieds nus autour de ce piano, danser le galop. Voilà.
Le square dance.
Nous, c'était Palmyre.
Paul Pavio.
Et on venait de danser le square dance chez Palmyre avec Ursula, qui n'était pas encore Ursula Vian, mais qui est devenue Ursula Vian, qui était Ursula Kubler des ballets Roland Petit, et c'était l'idylle. Mais on était 7-8 à dîner chez Boris, et après on allait là-bas.
Le galop de Palmyre, très grinçant, mais bon, incontournable.
Simone Duckstein.
Qui a déchaîné les soirées tropéziennes. C'était ravissant, c'était un endroit où il y avait des grands mûriers à l'extérieur, où il faisait frais, où il faisait bon s'asseoir. Après avoir bien transpiré en dansant le galop à l'intérieur, qui était surchauffé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout d'air conditionné. Et le seul air conditionné venait des fenêtres ouvertes sur l'extérieur.
Ça a duré jusqu'à quand, justement, ce son Palmyre et ce son de piano mécanique, début des années 60 ?
Oui, début des années 60, oui.
Guide bleu Provence-Côte d'Azur, 1955. La vieille ville, à peu près inchangée depuis le XVIIIe siècle, est pleine d'attraits pour l'amateur de couleurs locales. Depuis 1925 environ, Saint-Tropez est fréquenté comme station d'été par une clientèle où dominent les artistes et qui lui donne alors beaucoup d'animation. À l'extrémité du quai Gabriel Péri se dresse l'ancienne chapelle de l'Annonciade. Elle vient d'être aménagée intérieurement pour abriter un musée d'art contemporain qui doit être ouvert au public en juillet 1955. On y verra des toiles de maîtres contemporains, notamment de Signac, qui fut le premier à découvrir Saint-Tropez et y attira, par la suite, certains de ses camarades.
Et tout le monde tourne en rond. Ce sont les vacances. Depuis que Gérard connaît les grands de ce monde, il voit l'univers à ses pieds.
Il a pour chauffeur Boris Vian.
Vous savez ce grand crétin à chemise rayée qui trouve malade.
Et Gérard pourra, grâce à ses rencontres de vacances, c'était un séjour merveilleux. Le seul inconvénient de Saint-Tropez, c'est que ça fait évidemment un peu carte postale et que tous les jours, à midi,
il y avait déjà beaucoup d'argent à Saint-Tropez dans ces années-là, parce qu'on voit effectivement des yachts, des belles voitures pour l'époque, qui parsèment tout le port de Saint-Tropez dans votre film Paul Pavio.
Oui, mais alors il faut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu les problèmes en Algérie. Et on peut dire qu'il y avait beaucoup de bateaux où il y avait marqué Alger. Il y avait beaucoup de pieds noirs qui à l'époque étaient huppés et qui venaient carrément là avec leurs enfants, qui venaient en vacances à Saint-Tropez. Mais quand on jouait Place des Lys à la pétanque avec les autochtones, c'est qu'ils nous avaient acceptés. Ils jugeaient bien les gens, là, croyaient bien, ils voyaient les guignols et ils voyaient les autres.
Yvette Bain.
C'est l'époque, je crois, que Vadim vient déjà sur la place, donc il y a un véritable échange et ça devient quelque chose de très sympathique. Et cela se passe vraiment au Café des Arts, sur la place des Lys, vraiment. Tout débute là. Hein.
Le Café des Arts, c'est un lieu de rendez-vous pendant combien de temps ? Tout le temps, dans ces années-là ?
Le Café des Arts, on en a fait d'abord un bistrot fréquenté par tous les Vadim et compagnie. Et donc, ensuite, quand on a ouvert le restaurant, puisqu'on avait beaucoup d'amis, comme tous les journalistes, qui venaient au Café des Arts et qui mangeaient à notre table. On a dit, il y a la cour, on va faire quelques tables pour les recevoir. Et tout ça a pris une dimension qui nous a un peu dépassés. C'est devenu vraiment une des endroits les plus à la mode.
C'est certain, on peut dire que quelques commerçants qui faisaient bien leur métier, d'ailleurs, parce que c'était bon, le café glacé de chez Sénéquier, et quelques autres restaurants de l'époque, on sentit qu'il y avait quand même une mine là. Et je dois dire que bon, la famille Sénéquier, bon, c'est devenu un empire.
Mais ça a commencé assez doucement. On n'avait que deux serveuses sur la terrasse, puis trois, puis quatre. Et puis c'est devenu ce que vous connaissez, le Sénéquier.
internationale.
Georgette Lorta-Jacob.
Tout le monde, même en Amérique, connaît Sénéquier. Nous avons souffert quand même de l'afflux de clientèle de juillet, août. Ça, pour nous, ça a été... Il y avait trop de monde, trop de voitures, trop de bruit. Et ça va, ça grave.
Avec une ambiguïté tout de même, c'est que plus il y a de monde, plus Saint-Tropez est connu. Plus Saint-Tropez est connu, plus les commerces tournent. Et au bout du compte, tout compte fait, une sorte d'équilibre se fait entre cette venue nombreuse des touristes et puis le gain que tous les Tropéziens peuvent en tirer.
Je crois que les Tropéziens étaient très heureux avant l'arrivée des estivants, dirons-nous. Je ne sais pas s'ils y gagnent beaucoup. Les commerces, non, ce n'est plus que des commerces de fruits, de chaussures. C'est plus du tout. Nous avions des petits commerçants, une mercière qui s'appelait Madame Rose Ventre, la boutique s'appelait Un peu de tout. Il y avait de tout, depuis les couronnes mortuaires jusqu'aux boutons de nacre, c'était assez extraordinaire. Mais tous ces petits commerces-là ont disparu, les vieilles c'était des vieux de Saint-Tropez, tout ça.
Il y avait les Vachons qui ensuite...
Ah, les Vachons qui ont tenu bon longtemps, mais qui s'étaient mis à la mode et qui vendaient beaucoup.
François Vachon.
Disons que ça a été la première marque. Parce que mon grand-père et ma grand-mère avaient une chapellerie et vendaient des chaussures. Et ma tante, elle, est rentrée et a fait de la couture à la mode, quoi. Elle a créé une mode tropézienne.
François Guglietto.
On est resté pendant des années avec le seul magasin qui était où on pouvait trouver des chemises. Là, c'était Manine Vachon, qui était la sœur de Fredo Vachon, qui faisait des petites chemises en Vichy, et avec 50 francs, on s'habillait de la tête aux pieds. Voilà.
Sur Saint-Tropez, ça a été Vachon.
Et c'était quoi la mode tropézienne d'après Vachon ?
Des tissus provençaux qui faisaient des jupes, des calicots là-haut. Enfin, c'était une mode très simple, quoi. Hein, avec des très beaux tissus de soleillade. Hein, de très beaux tissus, mais c'était simple, quoi. Simple de bon goût.
Et alors, on voit effectivement que dans ces années 50, il y a tout qui se tisse, c'est-à-dire ce que vous racontez, c'est-à-dire à la fois Vachon, l'installation du mode, de tout un tas de choses. On a l'impression que tout se met en place dans ces années 50, François Vachon, c'est vrai, tout ce qui va faire le mythe de Saint-Tropez.
Oui, ça commence, mais tout le monde en a profité, évidemment. Mais disons, au début, c'était... Disons, j'appellerais ça pas honnête, mais enfin c'était honnête, c'était de bon goût, et puis après c'est devenu mercantile.
Irriguée par la Nationale 7, la Côte d'Azur voit petit à petit, dans les années 50, arriver une nouvelle clientèle, plus nombreuse, moins argentée peut-être, qui décide elle aussi de passer des vacances au soleil. En venant à Saint-Tropez, ces estivants sont également en quête de cette authenticité qui a tant séduit ceux qui les ont précédés. Désormais tourné vers le tourisme, le petit port va se muer en décor. Sandales tropéziennes, tartes tropéziennes, mode tropézienne, folklore tropézien. Tant il est vrai qu'à chaque fois qu'une communauté se sent menacée dans son identité, elle multiplie les signes extérieurs de celle-ci et de la tradition, réelle ou inventée, dont elle est issue.
1, 2, 3. Mais non, c'est pas ça, tu danses le mambo. Tiens, je vais te montrer. C'est formidable.
Perdition, quel rythme, perdition. Cha-cha-cha.
Tu sais, Eric est revenu. Son secrétaire Albéga pour moi.
Perdition, quel rythme,
perdition. Il me demande de danser à Cannes ce soir.
Perdition, quel rythme, cha-cha-cha. 1, 2, 3. Cha-cha-cha, la li la li la la. Attends, regarde, c'est comme ça. La-la-la, pa-la-la-lou-la-la. 1, 2, 3.
Ah, tcha tcha! Arrêtez un peu la boucanerie! Oh! Dis-leur d'arrêter qu'on fait l'interview, là!
François Vachon, fils du fondateur du Rampeou de Saint-Tropez.
Si vous voulez, au départ, un peu, disons, cette identité de groupe folklorique n'existait pas, si vous voulez. Hein. À l'époque, il y avait des Provençals, des Provençaux, quand il y avait les fêtes de la Bravade Saint-Tropez, mais il n'y avait pas de groupe folklorique, quoi. Hein.
Mais est-ce que c'est aussi parce que dans les années 50, c'est le moment où les Parisiens arrivent en grand nombre, où il y a tout un changement
de... Non, ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fait par amour. Par amour de tous les gens qui ont participé, par amour du folklore, par amour de son pays, la Provence, qui est un pays merveilleux. Hein? Non, sans rigoler, je suis pas chauvin, hein? Mais c'est un pays merveilleux. Alors ils ont eu envie de s'extérioriser pour montrer ce qu'ils étaient, quoi. Et notamment à Saint-Tropez, qui était un pays qui était voué aux touristes. Hein, aux touristes, mais les touristes qui s'intéressaient au chiffon pour se mettre sur le cul, mais qui n'étaient pas intéressés par le folklore.
Mais est-ce qu'à l'époque, quand il a été créé, quand il s'est développé, ce groupe de Laurent Péou, est-ce qu'il y avait encore un véritable folklore provençal, ou est-ce qu'il a fallu le recréer parce qu'il n'y avait plus personne qui savait ce que c'était?
Non, il a toujours existé, le folklore provençal. Il a toujours existé. Alors les gens savaient un peu ce que c'était, pas un peu. Hein, alors on a eu ici un maître de danse formidable, qui était Monsieur Philippe Tallien, qui était danseur à l'opéra ou je sais pas où, et qui a appris les jeunes à faire les pointes, à danser classique, quoi. Parce que au début c'était une danse plutôt paysanne. Hein. Après c'est devenu une danse classique et super.
Laurent Péou de Saint-Tropez, enregistré lors d'une bravade pour le film Les Corsaires du Bois de Boulogne en 1953.
C'est le plus beau jour de ma vie.
Puisse le souvenir de ces gracieuses évolutions folkloriques être un puissant réconfort pour nos hardis navigateurs lorsqu'ils lutteront au plus fort de la tempête. Saluons la courageuse entreprise de ces nouveaux naufragés volontaires. Au nom de la population tropézienne tout entière, je leur souhaite bon naufrage. Capitaine, vous avez la parole.
En 1951, Laurent Péou avait besoin d'un petit coup de pouce, et Philippe Tallien parce que Philippe Tallien, c'était un génie de Saint-Tropez, qui était à la fois un mécène, un constructeur de villas extraordinaire. Il avait une galerie de peinture où il exposait les meilleurs peintres. Il était aussi couturier, danseur, tout ce qu'on veut, et il avait...
Et défenseur d'une identité.
Oui, et il avait les Chivas au Frous, c'est-à-dire une des figures principales du Rampéou, ont été réintroduits par lui, et il avait retrouvé ça dans des bouquins.
Une soirée de Paris.
France Inter, 11 mai 1958.
La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter L'Enchantement tropézien, une émission de Roger Réjean réalisée par Guy Delaunay, avec François Perrier et le concours de René Clair, André Dunoyer de Segonzac, Joseph Perret, le commandant Rosati, Marius Saint-Martin, Alfred Vachon et Monsieur Louis Fabre, maire de Saint-Tropez.
De mai chaque année, il en est ainsi. Pendant 3 jours, le ciel de Saint-Tropez, si calme, si pur en cette saison du printemps, s'emplit de clameurs et de détonations. De la citadelle au musée de l'Annonciade, de la chapelle de la Miséricorde au phare à feu rouge qui garde le port, un tumulte indescriptible emplit la ville nuit et jour pendant 75 heures. Ce sont les 3 journées de la bravade. Ensuite, pour des semaines, les Tropéziens sont sourds. D'où viennent ces traditions qui font chaque année de Saint-Tropez cité corsaire une ville où se mêlent les senteurs de la poudre, de l'encens, les harmonies des danses provençales et les cantiques?
Albert Dufresne, directeur de la tarte tropézienne.
Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que Alexandre Mika était polonais et est arrivé là avec le débarquement. Et il s'est marié à Saint-Tropez, il a repris une petite boulangerie en face de la mairie. Et c'est là où, en fait, tout s'est passé, parce que il y a eu le tournage du film, le fameux film « Et Dieu créa la femme ». Et Alexandre Mika avait sa petite boulangerie, elle faisait son gâteau qui était une recette polonaise. Mika, bon pâtissier, je pense que la recette de la crème par elle-même, il l'a améliorée ici avec les produits locaux, bien sûr. Déjà la brioche avec la fleur d'oranger et tout, vous trouvez ça que dans le midi. Mais par contre, la crème, c'est une recette de grand-mère polonaise, toute très très simple en plus. Et on faisait deux, trois par jour, et c'est vrai qu'il les alimentait en pâtisserie, toute l'équipe du film, qui d'ailleurs allait déjeuner à midi au Club 55, c'est comme ça que le Club 55 a démarré. Et on lui disait, mais pourquoi vous l'appelez pas la tarte de Saint-Tropez? Et M. Mika m'a toujours dit que c'était Bardot qui lui avait dit, faut l'appeler la tarte de Saint-Tropez. Bon, là-dessus, ça marchait un petit peu, mais c'était vraiment pour les initiés, pour les tropéziens.
Alors donc, Jean-Baptiste Doumingue, le milliardaire rouge, arrive là-dessus, et qu'est-ce qui se passe?
Et donc Mika dit, moi, bien sûr, si on veut la faire en surgelé, pourquoi pas? Donc il lui vend une licence de surgelé pour la fabriquer. Doumingue l'a fait fabriquer à Bourg-en-Bresse, en surgelé, par un dénommé Jeannin, et bien sûr avec d'autres moyens que M. Mika. Donc ils font une pub d'enfer dans les supermarchés, partout. Il a commencé en 55 à les faire, et on va dire que c'est en 73 que ça a explosé.
Qu'on entend?
C'est l'orchestre du Whisky Club qui répète. Ils ouvrent la boîte dans quelques jours.
Guide Provence Côte d'Azur, 1955. Hôtel L'Aioli. Mobilier ancien, restaurant de premier ordre, 22 chambres. Sub et continental, 16 chambres. De Paris, 40 chambres. L'Ermitage, 33 chambres. De la Méditerranée, 18 chambres. Sporting Club, 10 chambres. Loucagnard, 12 chambres. Coste, au pilon, à 1 km, 20 chambres. La Pinède, plage de la Bouillabaisse, 21 chambres. Restaurant, les Mouscardins, sur le port, tout premier ordre. Auberge des Morts, premier ordre.
Ah, ce qu'on est bien ici.
Ah, c'est vrai qu'on est bien ici. Mais quel merveilleux pays, mais quelle merveilleuse maison.
Elle est jolie, hein, ma maison.
Je sais pas. Il y a longtemps que tu es là?
Non, pas très longtemps. C'est la première fois que j'habite ici.
Et pourquoi tu as choisi ça?
Ah, j'ai choisi Saint-Tropez parce que je trouve que Saint-Tropez, quand il n'y a pas trop de gens, c'est le plus joli petit village de la côte, le plus joli petit peuple.
En tout cas, il y a un coucher de soleil actuellement.
Oui, c'est joli. Hein. La mer est d'une couleur indéfinissable. C'est très, très beau.
Sans l'avoir vraiment voulu, par la grâce de Vadim et de Bardot, Saint-Tropez devient brusquement un village mondial. Sagan, Distel, Bernard et Annabelle Buffet, Delon, Aznavour, certes, passent leurs étés ici, mais aussi Elsa Martinelli, Liz Taylor, Petula Clark et bien d'autres. Les magazines, qui ne s'appellent pas encore People, sont pleins des fêtes et des soirées de Saint-Tropez. Jeunesse, beauté, soleil, mer, frime et argent transforment l'image du charmant petit port.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Vous voyez pas, je m'amuse!
Alors viens, ça suffit.
Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire?
Vous avez terminé?
C'est loin.
De l'autre côté de la terre.
Je voudrais être plus bon.
C'est pour ça que je suis ici, Juliette.
Juillet 2002, chez François Guglietto, fenêtres ouvertes sur le port de Saint-Tropez.
C'est plus de photos, là.
C'est la malle aux souvenirs.
Oh, je m'en souviens, c'est pas dur. J'entasse un peu de choses comme je peux.
Oh là là là, c'est qu'il y en a, trop, il y en a presque trop. Ce sont des centaines de photographies que vous avez conservées. Et alors donc, ce sont toutes les photographies de vous, j'imagine, avec les vedettes que vous avez croisées.
Oui, et puis des photos d'ambiance, tout ça, vous voyez.
Alors prenons-en que quelques-unes, parce qu'on va pas vous faire déballer la totalité de votre collection qui est énorme.
Je
Voilà donc la fameuse photo des 21 ans de Françoise Sagan à l'Esquinade. Donc on la voit ici. Donc un tout petit bar en cave avec Marcel Achard à côté d'elle. Annabelle Buffet.
Annabelle, moi et Astruc. Regardez l'atmosphère qu'il y avait, c'était incroyable.
Donc tout le monde tassé autour de table, c'est l'ambiance Saint-Germain-des-Prés.
Voilà, oui, devant, derrière le bar. Ça c'est chez moi pendant qu'on tournait les liaisons dangereuses.
De Vadim justement, donc c'est au tout début des années 60. Voilà, ça.
Oui, avec Gérard Philippe, qui lui avait
une maison à Ramatuelle.
À Ramatuelle, oui. Ça, c'est Michel Leclerc.
Acteur. Alors, l'Esquinade, ça a été un lieu de rendez-vous, un lieu de fête permanent.
Ça a été permanent, oui, mais ça a été pendant 5 ans le seul endroit où tout se passait.
Entre quelle année et quelle année? Alors, 50...
Entre 56 et 60.
Extraordinaire. J'en ai la nostalgie tous les jours.
Elisabeth Lorta-Jacob.
C'est vraiment, on marchait pieds nus, on passait notre temps dans l'eau, on était heureux, on n'avait personne, vous comprenez, autour de nous. On pouvait aller à la plage mythique des Tropéziens, les Salins, Canoubier. Vraiment, sans contrariété, c'était le paradis.
Vous commencez à sortir dans ces années-là, entre 55 et 60.
Je suis sorti exactement en 58, j'ai le souvenir. Oui, 57-58, ou alors là, on s'éclatait toutes les nuits, quoi. On dansait tout le temps. On dansait, mais dans toutes les boîtes, toi et qui Brigitte, d'ailleurs.
Et c'était lesquelles?
L'Esquinade. Et puis un peu avant, c'était le Palmyre. Alors, on dansait pieds nus, et on avait tellement d'ampoules le matin. Et comme je faisais le mur toutes les nuits, parce que je passais par la rue Gambetta, et j'allais directement voir Angèle, qui était la patronne, et on avait des ampoules, et lorsqu'on allait au salin le lendemain matin, elles éclataient sous la pression du sel et du sable, et c'est là où on était trahis. Quand t'es encore sorti hier soir, t'as plein d'ampoules, au pied, etc. Et on dansait toute la nuit.
Les musiques,
c'est quoi? Cha-cha-cha. Et puis chez Palmyre, c'était le piano mécanique et l'accordéon. Vous comprenez, là, on dansait vraiment. À la fin, je mettais plus de chaussures, parce que c'était des ballerines. À ce moment-là, vous savez, on portait des petites ballerines. Et c'était plus la peine. Elle était trop vite.
Tout le monde était là.
Ce sont les fêtes au champagne.
À l'Esquinade à Megève.
Où est-ce que vous montez en même temps que vous montez l'Esquinade ici? Il y a un Esquinade à Megève, c'est ça? Et c'était la même clientèle à Megève et ici?
Oui, absolument.
C'est-à-dire qu'on allait l'hiver à Megève et on venait l'été à Saint-Tropez.
Tiens, pour vous donner un exemple de comment ça se passait, cette photo, voilà. Cette photo, elle a paru sur tous les journaux. Français, étrangers, tout ça. Et la légende en dessous, c'était les princesses italiennes, qui sont là, les trois, hein, Maria Pia, Maria Gabriella et Nelson, avec leur ami Odile Rodin, qui est là, à l'Esquinade, une nuit à l'Esquinade, à Saint-Tropez, voilà, tout là. Personne ne parle de rien du tout. Et sur la photo, regardez. Claude Pompidou, Georges Pompidou, Jean du Luxembourg, Gianni Agnelli. C'est incroyable, non? C'est pas formidable.
Et c'était quoi? C'était quelle année, ça, à peu près?
Ça, c'était en 59.
Parce que, par exemple, les Pompidou ont fréquenté assez longtemps Saint-Tropez.
Oui. Ils louaient lui là, ils étaient très habillés avec François Sagan.
Oui, Agnelli mettait son bateau là, juste en face, descendait à l'hôtel parfois.
Simone Duckstein.
Nous avions aussi toute la famille de Savoie, qui prenait tout un étage de l'hôtel. Oui, j'ai connu Juan Carlos, il avait 14 ans.
Hai dato un volto
a questi sogni hai dato un nome ai miei pensieri.
Qu'est-ce qui a changé quand on entend des vieux tropéziens, ils nous disent après l'explosion de Brigitte Bardot comme vedette, ça a tout changé parce que les gens sont venus, le peuple est venu, etc. Qu'est-ce que ça a changé justement la période Brigitte Bardot? Ah ben là on la voit en train de... une photo dédicacée d'ailleurs à vous, hein, fidèlement à toi, donc en train de jouer de la guitare. Qu'est-ce que ça a changé justement cette période Brigitte Bardot? C'était quelque chose de vraiment différent?
Ça, on faisait des bouillabaisse, on sortait, on allait... Tout se passait en famille, toujours ici.
Et vous avez eu une impression d'envahissement à partir d'un certain moment?
Complètement, oui. À partir de 62, 63, ça a commencé. Et...
à Saint-Tropez, la lune s'y destaque.
Jacqueline Vessière.
La première fois que je suis arrivée à Saint-Tropez, j'étais une jeune adolescente qui venait d'avoir son bac. Je venais d'arriver à Paris pour faire une école de la Croix-Rouge et avec un groupe de copains, dans l'été qui suivit, on a décidé d'aller découvrir ce Saint-Tropez dont tout le monde parlait, puisque Brigitte venait d'avoir sa maison, d'acheter sa maison, la Madrague, Annabelle, Bernard Buffet, Chazot, Sagan, Gréco, voilà. C'était en 60.
Tu ballet twist, portando un vestito en la mer.
Inter, actualité.
Le 27 mars 1961.
On reprend les mêmes et on recommence, Pierre Lerouzy.
Oui, on parle beaucoup à Saint-Tropez d'un remariage possible entre Brigitte Bardot et Roger Vadim. Cette éventualité avait attiré une foule nombreuse hier autour de la Madrague, la villa de Brigitte Bardot, où Brigitte Bardot et Vadim ont subi un véritable siège. Et les assiégés, c'est-à-dire eux, passèrent d'ailleurs un bon moment à déverser des bassines d'eau sur les badauds, sur les journalistes et sur les photographes. Cette opération n'ayant donné aucun résultat, cette opération rafraîchissante, ce sont finalement les gendarmes de Saint-Tropez qui durent dégager la propriété de Brigitte Bardot. Un dernier détail qui expliquera la fureur des assiégeants, Brigitte ne portait qu'un minuscule bikini et jaune encore.
Brigitte, pourquoi es-tu si belle? Ne sois pas trop cruelle. Je t'aime tant et tant. Tout lasse, tout passe.
Tout le monde en parle, justement à cause de toutes ces personnalités qui sont là, assises aux terrasses et qui habitent l'été Saint-Tropez. Mais c'était encore la grande, belle époque, je peux vous dire, impressionnante pour des jeunes comme moi qui débarquaient de leur province. Saint-Tropez, c'était pour moi une féerie parce qu'il n'y avait que des terrasses avec des têtes connues. Le gorille, par exemple, habitait au-dessus du gorille des gens comme Sagan, comme ces personnages-là. Donc, ils étaient là aux terrasses. Toutes les terrasses avaient comme chef de file ou comme propriétaire ou animateur une personnalité. Ça a été Bobby Barrier, c'était Félix Giraud, c'était François Guglietto, un peu plus loin à l'esquinade, c'était René Dalolo qui avait également un restaurant dans la vieille ville et une boîte qui ouvrait le soir à 11h du soir. Ce n'étaient que des personnalités extraordinaires. Alors, par exemple, l'esquinade qui était animée par François Guglietto, là, c'était mélange jazz, chansons, musique italienne, on dansait des slow, on dansait des bop, on dansait des rock. Alors que dans la boîte de René Dalolo, je me rappelle, c'était des orchestres qui se succédaient. Donc la musique était très différente. Et on allait avec, je me rappelle, ça, c'était un phénomène qui m'impressionnait beaucoup comme j'étais très gamine. Les gens partaient avec leurs verres d'une boîte aller dans l'autre, vous voyez un peu le charme de ces soirées.
Mon adjudant ! Ça y est, à Tahiti, ça recommence.
Quoi ?
Qu'est-ce qui recommence ? Les encombrements ?
Non,
les nudistes, tous à poil.
Les nudistes, Cruchot, je les aurai. Il y a trop longtemps qu'ils me narquent. Rassemblez tout le monde !
Oui,
allez ! Allez !
Guide bleu Provence-Côte d'Azur, 1964. En arrivant par la route de la Foue, on laisse à gauche la place Blanqui et une vaste esplanade où la poste et le casino sont entourés de studios modernes. Un vaste parc de stationnement y est aménagé. Il est recommandé pendant la saison d'y laisser sa voiture, la circulation dans les vieilles villes étant très malaisée. Le port abrite durant la saison un grand nombre de bateaux de plaisance et de yachts de toutes nationalités. L'ensemble offre un aspect ravissant et des plus animés. À 4 km, château de Pamplonne, d'où une route à gauche conduit au centre de la plage de Pamplonne qui s'étend sur 4 km. Une partie de la 3e division américaine y débarqua. Naguère déserte, cette plage est aujourd'hui environnée de nombreux lotissements.
Alors là, ça va pas. Alors là, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que cette chienlit ?
Non, papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?
Viens par ici, regarde-toi. Viens, toi, casser la glace, là, hein ?
Tout le monde s'habille comme ça ici.
Viens alors.
Bah évidemment, toi t'es en uniforme, ça change pas beaucoup. Moi j'en ai assez qu'on se moque de moi alors.
Comment on se moque ? Mais qui s'est permis de se moquer de toi ? Raconte-moi ça vite, allez !
Bah, des jeunes gens, des jeunes filles, tout le monde. Je suis pas dans le vent quoi !
Alors parce qu'il faut s'habiller en arlequin et se balader dans les courants d'air pour être naturalisé ici ?
Mais enfin, papa, j'essaie d'être à la mode, d'être comme tout le monde quoi !
Ouais, hop, déshabillage.
Jean Bouquin.
Extrêmement modeste, du quartier là où on m'a interviewé, c'est-à-dire à la République, et je n'avais jamais été sur la Côte d'Azur, et j'avais jamais été à Saint-Tropez. Mais moi, je lisais les articles, à l'époque c'était Cinémonde, Cinévogue, on voyait, on était tous imbibés de cinéma naturellement, et puis tout ce que pouvait François, qui était un grand quotidien, ou le Parisien, et on avait tous les jours des échos de Carmen Tessier, donc qui étaient les boulevards de la Commère. Donc on voyait bien que tout le monde était à Saint-Tropez, et que c'était incontournable, il fallait être à Saint-Tropez. Pourquoi je suis allé à Saint-Tropez ? Parce que je me suis dit, je mettrai 20 ans, 30 ans, 40 ans à Paris pour être connu, à Saint-Tropez, j'ai rien, quel risque j'ai ? C'est d'essayer. Et je suis allé à Saint-Tropez. Et bien on l'a pris, parce qu'ils étaient tous là, tous étaient là. Et alors à Pâques 64, je suis parti à Saint-Tropez pour trouver une boutique, sans argent bien évidemment. Et j'ai pris le train, je suis descendu à Saint-Raphaël, je croyais qu'on allait au Saint-Tropez tout de suite, et là on m'a expliqué qu'il fallait prendre un car, donc j'ai pris le car, et dans le car on a cheminé autour de la campagne, avec des arrêts partout, Cogolin et ailleurs, et je suis arrivé 4 heures après, en car à Saint-Tropez, à la gare routière. Et là, à la gare routière, je suis descendu, c'était donc à Pâques, c'était à l'époque où on tournait le fameux gendarme de Saint-Tropez. Et moi, je connaissais déjà, puisque j'étais chez Renoma, certains comédiens. Et ces comédiens, il y en a deux d'ailleurs, qui tournaient dans le gendarme de Saint-Tropez. Bon, pour des raisons faciles, je les ai retrouvés le lendemain. Mais d'abord, je suis allé dans le port, j'ai découvert le port de Saint-Tropez, je suis allé au bout. Puis j'ai vu des boutiques à vendre. Donc j'ai relevé le numéro de téléphone, je suis revenu à la gare routière, j'ai demandé à téléphoner. Et puis je suis tombé sur un type qui s'appelait Germain, bon, qui m'a dit « Monsieur, c'est pourquoi ?» Je dis « Voilà, j'ai vu votre annonce, je suis intéressé par l'achat de votre boutique. » Et bien il m'a dit « Écoutez, pas de problème, voilà, le prix étant, c'était 20 millions à l'époque, c'était beaucoup, surtout que j'ai pas un sou. » Et puis il me dit « Voilà, c'est 20 millions, pas un sou de moins. » Ben j'ai dit « Écoutez, la saison va commencer vite, moi ce que je vous propose c'est de vous le louer. Et puis si ça marche, à la fin de la saison, je vous l'achète. » Alors il hésite, et j'ai dit, écoutez, maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous n'allez pas le vendre, ça ne sert à rien. Surtout que ce coin-là n'est pas le meilleur coin, c'est à côté du Muscardin, sur le port. À l'époque, c'était pas lancé, il n'y avait pas un chasse, personne venait. Alors, il m'a dit, bah, écoutez, d'accord, je vous loue 1,5 million. Et puis, mais par contre, à la fin de la saison, si vous me l'achetez, votre 1,5 million est perdu. Bah, j'ai dit, ok. Donc, il m'a dit, bah, vous trouverez les clés là-bas, à tel endroit. Donc, j'ai été chercher les clés. Et puis on a commencé les travaux, j'ai fait des travaux à ma façon, et on a fini les travaux très rapidement, avec peu d'argent bien sûr, j'ai fait venir de la marchandise des États-Unis d'ailleurs, et autres des matériaux que je connaissais bien, du patchwork et autres, des madrasses et toutes les magnifiques étoffes que j'ai eues après, et puis on a fait des décorations comme on pouvait, on allait, j'ai acheté une carriole, j'ai fait plein de choses pour donner un style un peu à la boutique, et puis donner à ma façon. On a ouvert, C'est un samedi, à 11h. À 11h, il n'y a personne. À 3h, arrive un type. Il la pochette pour 168 francs. Ça n'a plus jamais arrêté. Et ça, c'était parti. 3 jours après, Aznavour arrive, voit du tissu, il dit « C'est extraordinaire, vos tissus sont formidables. Vous me vendez le tissu ?» Ben, je dis « Non, je ne vends pas les tissus, moi je fais les vêtements. »« Ah non, non, vous me vendez le tissu, parce que dans 8 jours, je fais un disque et je veux qu'elle soit sur couverture. Mais dans 8 jours, vous aurez votre veste et il n'y a pas de problème. » Alors j'arrive à le convaincre, je lui fais la veste et finalement, il a fait la couverture du disque. Enfin, il a fait le disque et la couverture, j'ai retrouvé ma veste dessus.
De deux choses l'une, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune, mais blondes ou brunes.
À cette époque-là,
Jacqueline Vessière,
le talent était tout de suite reconnu et récompensé. Et Jean, vous le savez, enfin, vous ne le savez pas, avait un talent inouï, c'est-à-dire le chiffon ne ressemble plus à un chiffon.
On était ouvert tout le temps, alors tous les autres magasins sont fermés, ils sont à la plage, ils se font bronzer, ils font les beaux. Et moi, j'ouvrais à 8h du matin. Et un jour, à 2h de l'après-midi, j'étais dans le magasin, j'étais baissé, j'étais en train de mettre des épingles sur une retouche. Et je vois des gens, des pieds nus qui arrivent. Il faisait très chaud, on était au mois de juillet. Et je reconnais tout de suite, alors que je n'avais vu que dans « Et Dieu créé la femme », je reconnais les pieds de Brigitte. Je lève la tête, c'était elle. Elle a regardé les vêtements, elle dit « Oh, mais ça me plaît, c'est chou, c'est mignon, comme elle sait le faire. » Elle était avec Bob Zaguri à l'époque. Et elle dit « Bah, je prends ça. » J'essaye chez moi, et ce qui ne me va pas, je vous le fais renvoyer par les chauffeurs. Elle était venue en barque, parce qu'elle était tellement star qu'elle n'aurait jamais pu traverser le port. Et elle reprend sa barque avec Bob. 5 heures se passent, un coup de fil de la madrague, monsieur. Voilà, j'ai vu vos vêtements, écoutez, il faut qu'on se voit, c'est plus que je ne pensais. Et vraiment, non, il faut que je vous voie tout de suite, venez demain matin à la madrague. Alors, j'ai dit oui, bien sûr, moi je ne savais pas où était la madrague, je n'ai pas demandé, naturellement. Pas difficile à trouver. Donc j'ai été à la madrague le lendemain et elle m'a dit voilà, je pars pour Viva Maria. Si vous faites une collection, on va partir avec un photographe et puis je vais vous faire des photos, on fera un reportage dans elle et puis je vais vous m'habiller. Alors je dis ben d'accord. Elle m'a dit mais moi je pars dans 3 semaines. Je lui ai dit dans 3 semaines vous aurez la collection. Donc j'allais tous les 2 jours chez elle, je lui ai fait une collection et au mois d'octobre est paru dans elle la couverture en disant j'ai emmené dans mes malles tous les vêtements de mon ami Jean Bouquin et puis il y avait 6 pages et puis c'était parti. Donc Saint-Tropez était formidable. Les petites femmes de Paris,
c'était des féeries de couleurs extraordinaires, de matières. Vous savez-vous une chose, c'est que les Brigitte, les Nathalie Delon, toutes les jeunes femmes dans le coup, à la mode, Romy Schneider, Dany Saval, toutes les jeunes femmes qui hantaient les rues de Saint-Tropez à cette époque-là, nous allions chez Jean Bouquin à 3h en lui disant « Ce soir, il y a telle soirée, tel truc, je voudrais être habillée dans ce genre. » Et il avait ses coupeurs, il découpait sur nous. Sa femme faisait les essayages dans les cabines avec 2 ou 3 autres filles. Et le soir, à 8h, il livrait lui-même à domicile à chacune de nous la toilette qu'on avait commandée dans la journée. Comment voulez-vous que ça ne soit pas des grandes réussites ? Surtout quand il s'agit de femmes qui avaient des noms extraordinaires qui lui commandaient par 3, 4, 5, 10 robes ou toilettes ou ensemble. C'était les velours frappés, c'était les patchwork, c'était d'une beauté. Les caves n'ont jamais été aussi jolies qu'à l'époque de Jean Bouquin. Parce que tous les soirs, toutes les filles dans le vent voulaient être recouvertes des tissus de Jean Bouquin.
On a l'impression, Jacqueline Vessière, qu'en fait, lorsque les Tropéziens parlent, et puis surtout ceux de ces années-là, eh bien, ils évoquent une société où on se choisissait, et puis surtout une sorte de savoir-vivre tropézien de personnes très peu nombreuses contre l'arrivée d'une certaine population, en particulier du grand nombre de touristes.
Mais tout à fait. Moi, quand j'ai ouvert les caves du roi, c'est-à-dire en 67, nous avons ouvert l'hôtel, il n'y a pas eu besoin d'avoir un vigile, une personne pour surveiller l'entrée de cet hôtel. En haut et en bas, tout était ouvert. Prosper Guépara, le créateur, a reçu cette nuit-là 2000 ou 3000 personnes entre 18h où la partie a commencé jusqu'au lendemain matin à l'aube. Eh bien, il n'y a pas eu une algarde. Pas besoin de sortir quiconque. Ce n'étaient que des gens charmants, bien, connus ou pas connus, mais des gens charmants.
Et comment ça s'explique, cette auto-sélection d'une certaine façon de Saint-Tropez de ces années-là? Qu'est-ce qui faisait que certaines catégories de personnes venaient à Saint-Tropez plutôt qu'ailleurs et que d'une certaine façon, ils participaient à cette ambiance particulière de liberté, de bonne tenue que vous décrivez, Jacqueline Vessière?
À cette époque-là, je crois que les gens qui ne faisaient pas partie d'un certain système de vie et de manière ne se sentaient pas à l'aise, étaient gênés. Alors s'ils passaient un œil, c'était seulement au titre de la curiosité. Mais n'osaient pas s'installer pour l'instant.
J'aime les filles de La Rochelle. J'aime les filles camarades. J'aime les filles intellectuelles. J'aime les filles pour marrer.
Les années 60, c'est les années d'explosion de Saint-Tropez, François Vachon.
Ça a toujours explosé, Saint-Tropez. Il y a eu énormément de gens du spectacle, hein, d'artistes, de gens qui venaient à Saint-Tropez, parce qu'ils n'étaient pas emmerdés. Ils venaient en toute tranquillité. Maintenant, les types, ils sont fermés dans des propriétés, et ils évitent de sortir en plein jour, parce qu'ils ont peur que les types leur arrivent dessus. Moi, je me souviens, Brigitte Bardot, elle avait une cote terrible. Et ma tante avait encore son magasin. Et elle lui disait toujours, écoutez, madame Bardot, ne venez jamais l'après-midi parce que vous m'attirez trop de monde. Et elle, au contraire, pour se faire revoir, elle venait l'après-midi. Mais vous aviez du monde jusque-là, devant le magasin. Et moi, j'étais dehors pour protéger, parce qu'il y en a qui profitaient pour piquer une paire d'espadrilles, une paire de godasses. Et oui, c'était ça.
Georgette Porta-Jacob.
Saint-Tropez était très connue dans le milieu intellectuel et peintre bien avant Brigitte Bardot. Elle a amené une autre clientèle, c'est pas du tout la même chose. Brigitte Bardot a amené beaucoup plus de monde, je vous parle pas de la qualité du monde. Mais Colette aussi a été écœurée par la foule qui, chaque année un peu plus conséquente. Je ne me suis pas rendu compte de la progression. Chaque année, c'était un peu plus de monde, un peu plus de bruit, un peu plus de voitures. Ça a été très, très progressif.
France Inter, 11 septembre 1976.
Question pour un samedi. Ouf, ils sont partis.
Pas légitimement, ils ne me dérangent aucunement. Seulement, il faudrait que... Et soyez un peu plus raisonnables, parce qu'il y a beaucoup de certains endroits qu'on défend maintenant, que l'ouvrier, les femmes, les enfants qui vont promener, tout ça, beaucoup d'accès sont interdits, c'est tout à cause des estivants, ils sont trop sales.
Ce qui est absolument extraordinaire, c'est le succès.
Daniel Artigue.
Foudroyant, qui est arrivé ici entre juste après la guerre et puis maintenant. Il y a eu d'abord la vague Saint-Germain-des-Prés, juste après la guerre. Et puis ensuite, il y a eu la vague Showbiz, qui n'a rien à voir avec Saint-Germain-des-Prés. Et puis ensuite, il y a eu la foulasse que nous subissons maintenant.
Mais
malgré tout, parce que c'est pas un pays simple, c'est très complexe, il y a toujours eu encore des écrivains, des artistes qui restent ici, mais ils sont difficiles à trouver, ils se cachent. Et il y a aussi des très grandes familles, des belles villas, des gens qui se cachent aussi et qui ne fréquentent pas les gens qui marchent en mangeant dans la rue ou qui sucent des glaces.
Et ça a été un village jusqu'en 70. Et c'était vraiment un village. Alors c'est vrai que les après-midi, on avait 100 000 personnes sur le port. Mais vous ne voyez, à ce moment-là, il y a longtemps que les artistes, ils venaient le matin, ils venaient la nuit. Moi, j'étais ouvert jusqu'à 2 heures du matin. Les Muscardins, ils sortaient les Muscardins. Ce village leur appartenait. Comme, à un moment donné, Saint-Paul-de-Vence, avec les montants où j'ai eu une maison aussi, donc je connais bien plus tard, et je connais bien, et c'est là, on joue au boule et on est tranquille parce que on est entre nous. Et Saint-Tropez, c'était ça, mais après, c'était plus possible. Alors, les gens se retrouvaient dans les propriétés, ils avaient des grandes piscines, et chacun invitait l'un et l'autre, ou sur un bateau.
Comme Saint-Tropez, c'est scandaleux. Parce que vous passez à partir du mois mettons pour la bravade de Saint-Tropez, là, jusqu'à la fin du mois d'août, eh bien, c'est intenable. Ni la nuit, ni la journée, vous pouvez fermer l'œil. Et personne ne dit rien. Les gens marchent à poil.
Mais malgré tout, l'âme du pays est restée, parce que la bravade existe toujours, elle est très forte. Les traditions tropéziennes ici existent toujours. Et on défend encore plus là, les traditions contre le... Enfin, pas contre, mais un peu quand même. Contre le tourisme.
Oui, parce que...
Parce que s'il n'y avait plus ça, il n'y aurait plus rien du tout. Il n'y aurait plus que les chaussures de glace, et ça, on ne veut pas. Hein? Bon, alors, vous savez, Saint-Tropez, c'est quand même un endroit où le tourisme est omniprésent, et on en a besoin pour vivre, parce qu'ils en ont tous besoin, les Tropéziens, sinon ils ne pourraient pas survivre. Et donc, le tourisme, ça a été une manne tombée du ciel. Et on en a reçu, si vous voulez, les inconvénients, mais aussi les avantages, c'est vrai.
La parole est à Pascaline. Elle a 50 ans, elle a toujours vécu à Saint-Tropez, et elle a la dent dure.
Ils sont vraiment dégoûtants. L'autre fois, une maman qui était en train de torcher son môme à 5h d'après-midi un bébé, et qui a laissé toutes les mousses que l'on met derrière du bébé, les a laissées à côté de la fontaine. À toutes les heures, il y a des gens qui laissent tout. Les papiers gras, les emballages, et tout. Ah, ça, ne parlez pas des haussiers.
Les Tropéziens qui n'avaient pas d'argent ont été très contents de pouvoir vendre leur petite maison de 3 sous qui était moche et tout, mais qui était bien située pour pouvoir vivre, et ils sont partis habiter ailleurs, Cogolin, Gassin, je ne sais pas quoi. Alors par exemple à La Ponche, c'était le quartier des pêcheurs. Maintenant, il y avait énormément, parce que maintenant il n'y a presque plus de pêcheurs, pêcheurs bouillabaisse, les vrais pêcheurs, hein. Et c'était, il n'y avait que des familles de pêcheurs, et ils ont finalement, ils vivaient très 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 difficilement de leur pêche. Et ils ont vendu leur... la plupart ont vendu leur... ma mère, la première, a acheté deux chambres de pêcheurs, il y a 50 ans, à La Ponche. Donc, si vous voulez, le quartier, petit à petit, est mort, puisque c'était plus habité par les pêcheurs. Beaucoup d'étrangers, des Allemands, etc., mais peu importe ça. Donc, ils ont détruit leur village sans ils n'avaient pas trop le choix, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ils n'avaient pas le choix. Ils vivaient dans une telle misère qu'ils n'avaient pas... On ne peut pas leur en vouloir. Mais malgré tout, ça a beaucoup fait de mal.
Ah ben voilà. Ouais, super. Messieurs, dames. Pardon, messieurs, dames, s'il vous plaît. Je cherche la maison du chanteur Paul Memphis.
Oh, c'est pas dur. À gauche et encore à gauche.
Merci.
Elle s'appelle... Les Pessègues.
Thank you. Un moment. Nous, on cherche la maison de Brigitte Bardot. Ah ben, je suis désolé, on vient d'arriver, hein, je sais pas où c'est. Au revoir, merci.
Au revoir.
Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est le strump et que tout le monde est et que ça ne va pas. Simplement, moi, je n'y vais pas pour ne pas être déçu. Donc, je reste sans aller à Saint-Tropez. Et comme ça, je garde un merveilleux souvenir d'une lumière, d'une couleur, d'une citadelle, d'un port que j'ai aimé, que j'ai adoré et pour lequel ça a été un miracle. Sinon, je serais resté le fils de la blanchisseuse et je n'aurais jamais réussi.
Marc, Marie-Dominique Bougot, Philippe Mercher, Christine Robert, Emmanuel Laurentin.
La fabrique de l'histoire, Saint-Tropez, du mythe à la marque, première diffusion sur France Culture le 2 septembre 2002. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 septembre 2002. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.